Bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Alors petit à petit, l'été radiophonique s'approche de son terme et la notion d'estivalitude va bientôt s'effacer au profit de l'automnalitude, de l'hivernalitude, puis c'est plus complexe, de la printanièrealitude. Estivalitude, c'est quand même la petite boutique éphémère d'été qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci,
c'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera.
Formidable.
Fatou Diom, vous êtes romancière, auteur d'une dizaine de livres et vous signez en cette rentrée littéraire Les Veilleurs de Sangomar. Bonjour Fatou Diom.
Bonjour.
Kerena, dont on ne vous présente plus, vous êtes une chanteuse connue et reconnue. Votre dernier disque bleu, au féminin, est sorti en mars et vous avez aimablement interrompu votre tournée pour venir nous voir. Bonjour Kerena.
Bonjour.
Ce matin, vous l'aurez saisi, mes deux invités, eux, parcourent le monde et prouvent que la création est sans patrie ni frontières, pour reprendre le titre d'un célèbre livre de Yann Valtin, Magnéto Juliette.
France Inter. Estivalitude.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça encore ?
Christophe Bourseiller.
Fatou Diom, vous avez déjà écouté la musique ou les disques ou les chansons de Kerenan ?
Moi, je vais sous l'eau parce qu'il y a beaucoup de bleu et de douceur dans la voix de Kerenan.
Ah, c'est vrai.
Donc, c'est une dame aquatique comme je le suis.
Elle est très aquatique.
Je suis insulaire.
Voilà. Ben c'est très bien. Il faut que vous écoutiez La Disparition, Nolita, Not Going Anywhere ou Kerenan. Enfin, il y a plein d'albums que vous devriez découvrir, mais que vous allez sûrement entendre, puisque de toute façon, on va écouter la musique de Kerenan. D'ailleurs, quand je vous lis, Fatou Diom, je tiens à le dire, je trouve que vous devriez écrire des chansons pour Kerenan. Parce qu'il y a vraiment, dans votre livre, il y a une phrase que vous mettez en avant, c'est « Mon cou se souvient du feu de tes baisers ». Comme les fleurs fanées se souviennent du soleil. C'est pas mal à chanter ça, Kerenan, non ?
C'est beau, ah oui,
hein,
oui,
je trouve.
C'est très poétique.
Kerenan, vous connaissiez le travail de Fatou Diom ?
Alors, j'ai connu en cherchant pour l'émission, puisque je connaissais pas avant.
C'est bien.
Et
bravo.
Donc, j'ai pas encore eu le temps de plonger dans un de ses romans, mais ça ne va tarder avec cette rentrée littéraire, puisque j'ai compris que vous avez un livre.
Absolument, il y a un livre qui sort là dans quelques jours, demain je crois, enfin je sais plus, c'est très très proche, oui. Mais je vous recommande aussi Le Ventre de l'Atlantique, Inassouvi nos vies, Celles qui attendent ou Impossible de grandir. Il y en a plusieurs, il faudrait que vous lisiez toute une série de livres, puis il y en a d'autres, hein. Il y a aussi des essais, enfin il y a des pamphlets, elle arrête pas. Hein. Votre point commun à l'une et à l'autre, en tout cas à mon avis, c'est la fécondité du mélange des cultures. Alors Fatou Diom, votre roman donc, sachez-le Kerenan, son roman s'appelle Les Veilleurs de Sangomar, c'est un livre très particulier parce que c'est un livre qui porte entièrement sur le deuil. Alors ça se passe, Fatou, au Sénégal. C'est l'histoire d'une femme nommée Koumba, qui est mère d'une toute petite fille qui s'appelle Fadikine. Et surtout, vous évoquez, on va écouter quelques extraits d'un journal de France Inter, vous évoquez un événement tragique survenu au Sénégal le 26 septembre 2002. Alors écoutez un extrait du journal de France Inter. C'est intéressant parce que ce journal donc date du 29 septembre et on ne connaissait pas l'étendue du désastre à ce moment-là. Écoutez.
France Inter.
Il n'y aura donc que 63 survivants sur les près de 800 personnes, dont une dizaine de Français, qui se trouvaient à bord du Jola, ce bateau sénégalais qui a coulé dans une tempête au large de la Gambie jeudi soir. 350 corps ont été retrouvés, au moins autant sont portés disparus. Une tragédie qui s'est jouée en moins de 5 minutes, tous les témoignages l'attestent. Une forte rafale de vent, un bateau qui déjà gîtait au départ, des dizaines de personnes qui se précipitent sur l'un des côtés pour se protéger de la pluie et la coque qui se retourne brutalement.
Alors il faut dire que pendant plusieurs semaines, on n'a pas connu le nombre exact des victimes qui, selon vous, s'élève à 2000.
Oui, c'est aux environs de 2000. Les chiffres officiels disent 1864. Donc finalement, des rescapés, il y en a eu seulement 64. Et on ne sait pas du tout le chiffre exact. On sait que ça tourne autour de 2000.
Voilà. Ce qui est incroyable, c'est que cette catastrophe, on ne s'en souvient absolument plus en France. Moi, quand j'ai lu votre livre, je suis allé sur Google chercher ce qui s'était passé à ce moment-là, parce que pour moi, c'était quelque chose que j'avais totalement occulté. Et pourtant, cette catastrophe a fait plus de morts que le Titanic.
Oui, mais alors, c'est Estivalitude, n'est-ce pas ? On devrait se détendre, mais pourtant...
Bah, je suis désolé, votre livre est quand même très, très drôle à lire. Hein,
les grands maîtres littéraires sont là pour nous rappeler, selon que vous soyez puissant ou misérable. Donc voilà, alors la mort des humbles, peut-être que ça bouleverse beaucoup moins l'opinion internationale.
Que la mort des nantis, hein. C'est ce que vous écrivez, la finance planétaire, dans le livre. La finance planétaire se soucie davantage d'un rhume de Google que du paludisme, qui pourtant tue sous les tropiques plus que le sida dans le monde entier. Oui. Vous rendez compte, Kerenan, on ne sait pas ces choses-là. Hein, c'est...
Vous savez, Kumba qui a perdu le capitaine de son cœur, elle sait qu'elle a perdu son héros. Elle a perdu l'amour de sa vie. Elle a perdu tous ses projets. Et donc, on ne parle plus du Jola, mais elle doit surmonter ce cap-là. Elle doit vivre avec ça. Et je voulais me rappeler de tous ces gens qui ont perdu les leurs et qui n'entendent plus parler de ça. Et comment leur faire un monument historique, à part les pages. Donc, ce sont les pages qui nous ont gardé... Moïse, qui nous ont gardé Abraham et Jésus et Mohamed. Donc, Kumba fait un monument pour son homme.
Alors, vous nous entraînez dans les étapes du deuil. Alors, il y a des moments d'ailleurs où Kumba, qui est l'héroïne, elle a du mal à surmonter son deuil. Les autres disent d'elle, elle est à deux doigts de sucrer la soupe de poisson, voire elle dévisse de la carafe. Hein. Et puis alors, vous dites, il y a des choses, je voudrais que vous m'expliquiez, parce que votre livre utilise énormément de formules sénégalaises. Évidemment,
Je me fâche, ce ne sont pas des formules sénégalaises.
Ah, bon.
Ah oui, mais c'est...
Je
ma pâte à modeler à moi avec la langue française.
Fatoudium,
ma danse, mon tango avec la langue française.
Fatoudium, quand je vous dis, dans la poitrine de Kumba, c'est toute une arène du saloon qui djunjungue.
Oui.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer le sens? Qu'est-ce que c'est le saloon exactement?
Le saloon.
Saloum?
Oui, le Saloum, c'est la région où je suis né, au Sénégal.
D'accord.
C'est au sud du Sénégal.
D'accord.
Et le djunjung, c'était un tambour major, un tambour
très
royal.
Bien. Ben voilà.
Dans la cour du roi du Sine Saloum, les grandes nouvelles s'annonçaient à coups de djunjung. Et le djunjung, ne serait-ce que le nom, vous avez l'onomatopée déjà.
Ah bah complètement, c'est djunjung sec.
Voilà, et donc le verbe djunjungé n'existait pas dans la langue française jusqu'à ce que Molière m'invite naturellement, on peut djunjunger du cœur.
Bien sûr, voilà. Je vous djunjungé admirablement. Alors il y a une deuxième question que je voulais vous poser, vous écrivez « Sangomar commande le delta du Saloum ». Alors qu'est-ce que c'est Sangomar pour vous?
Alors Sangomar, c'est une toute petite île, une virgule comme ça dans l'océan Atlantique en face de mon village.
D'accord.
Et c'est une ancienne, c'est une île sanctuaire. C'est un lieu de prière animiste. Et jusqu'à la conversion des Serer Nyominka du Saloum, cette île-là, c'était un lieu de prière. Les morts sont censés se retrouver là-bas, donc l'esprit des morts, les ancêtres, les djinns sont là-bas et donc toute personne qui pleure quelqu'un peut invoquer le djinn de Sangomar pour parler à l'âme de cette personne disparue.
Et c'est ce que fait Kumba, elle parle en fait sans cesse à son mari, elle discute avec lui, avec Bouba, elle lui parle, elle s'exprime. Je pense que ça peut vous toucher, Kerenan, ce livre, parce qu'il est très drôle et en même temps c'est tragique. Vous voyez, c'est un livre, c'est tragicomique si je puis dire, parce que la question du deuil, elle est aussi très présente chez vous, Kerenan. Vous avez dit que la date la plus importante de votre vie, c'était le 13 juin 2010, à 2h du matin.
La plus importante d'une certaine manière, oui. Je pense que toute cette période, le deuil d'un père, mais aussi l'accueil d'une vie, une année, enfin un peu
parce
plus tard.
Avez fait un enfant,
et
une fille.
Et en fait, oui, je pense que le deuil après, j'aime bien que chacun transforme le deuil par rapport à un besoin presque émotionnel de la manière dont on gère le deuil. C'est-à-dire que moi aussi, je trouve que souvent on gère le deuil avec de l'humour. On est obligé, parce que le tragique et l'humour, c'est des choses, c'est des enfin, l'humour dans le tragique, c'est un instinct de survie. Chez moi, c'est plus à travers les notes, les mots et les mélodies. Mais après, dans la vie, oui, je gère le deuil avec beaucoup d'humour. Mais c'est pas forcément le cas dans mes chansons. Puisque je cherche une espèce de point d'équilibre, un focus, un centre un tout petit peu plus serein pour gérer les choses dans la musique.
Il y a une mélancolie dans votre musique aussi qui sort beaucoup. Donc c'est vrai que ça va plus dans l'esprit d'accompagner le deuil, sachant qu'on ne peut pas gérer la temporalité d'un deuil. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le livre de Fatoudium, les veilleurs de Sangomar. C'est le fait qu'on est en fait Kumba, l'héroïne, elle suit elle-même son propre cœur, si vous voulez. Elle accompagne son cœur, mais elle n'est pas capable de maîtriser la chronologie de ce deuil. Par contre, ce qui l'énerve, bon, c'est juste un détail, c'est les coutumes du deuil. Parce qu'évidemment, comme elle est sénégalaise, il y a plein de coutumes qui sont d'ailleurs assez étonnantes. Et Fatou Diome les épingle. Elle trouve que ces coutumes servent à rien. Et c'est vrai que quand on est dans le deuil, on n'a pas toujours envie de respecter une coutume. En tout cas, le long fleuve Doux, c'est un très beau titre, je trouve. C'est le fleuve où on envoie les fous. Et c'est votre disque, Kerenan, le fleuve Doux.
Ces fous qui se mettent à nu, qui sont à bout, qui n'en peuvent plus de voir des fous partout. On y prend goût, mais je me passerai bien de lui, j'avoue. Il est saoul, il fait des bleus, il mène à bout, il pique les yeux. Il me rend flou, c'est fou. Je me noie dans l'eau de la
Ce matin, nous nous baignons dans le fleuve Doux de Kerenan, extrait de son album Bleu.
Estivalitude, Christophe Bourseiller sur France Inter.
Kerenan Fatou Diome est à la fois sénégalaise et française, et même alsacienne. Et vous, Kerenan, vous êtes à la fois israélienne, hollandaise et française, c'est ça?
Oui.
Hein,
oui.
On peut dire ça?
J'ai ces trois nationalités.
Oui. Il paraît que les gens croient que vous êtes bretonne.
Oui, Kerenan. Il y a un village qui s'appelle Kerana, on confond, oui.
Et pourtant, pas du tout.
Pas du tout.
Oui. Vous dites, j'ai besoin d'avoir des vies parallèles.
Pendant que j'écris, oui.
Ouais.
Parce qu'en fait, autant ce serait un état ou une émotion qui va me pousser à écrire quelque chose, mais parfois j'emprunte des histoires des autres ou une histoire que j'ai lue. Là, par exemple, le fleuve Doux, c'est en fait, ça vient d'un article que j'ai lu sur un fleuve au Brésil qui s'appelle Rio Doce. ouais. Le fleuve Doubs, donc. Et c'est un fleuve qui est tellement pollué qu'il emporte...
C'est pour ça qu'il draine les fous,
voilà,
avec
lui. Voilà, et en fait, ça m'a fait penser à une relation. Ah, ouais. Donc, j'ai pris cette histoire et puis je l'ai ramenée entre quatre
murs. Une relation polluée ?
Une relation qu'on a tous vécue, c'est celle qui ne nous va pas. On est toujours, enfin, il y a toujours quelqu'un qui nous pollue et nous, on pollue toujours quelqu'un. On ne peut pas passer toute une vie sans être dans les deux. Donc, on a des vies parallèles parce que quand on a réussi à se débarrasser de certaines choses, on se rend compte que à d'autres moments dans la vie, on a été ce que nous on voit en face aujourd'hui. Et donc, le fleuve Doubs, c'est un peu ça. C'est celui qui c'est comme ce fleuve, on met le pied et il nous emporte et il nous fait disparaître et ça peut être aussi une histoire d'amour.
Et quand on a des origines parallèles, quand on est à la fois israélienne, hollandaise, française, on a en quelque sorte des destins parallèles dans chaque pays, ou est-ce qu'on est la même personne, on essaie de faire une sorte de mix des trois ?
Non, je pense qu'on est toujours la même personne, mais après il y a des choses qu'on emporte avec nous dans l'ADN, c'est-à-dire être né en Israël, peu importe la manière dont on a grandi, comment on a été éduqué, peu importe nos valeurs, on a quelque chose dans l'ADN qui a une histoire pas forcément toujours facile à emporter dans ses bagages. Quand on est hollandaise aussi, parce que dans ma famille, c'est beaucoup le côté de ma mère, justement, elle vient d'une famille très catholique. C'est plus ce côté-là de la famille qui a vécu et qui a souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bizarrement, c'est pas le côté juif, polonais, russe, ukrainien de mon père. C'est les histoires torturées de la famille. Ça vient plus d'elle, autant qu'hollandaise pendant la guerre. Et puis, être française, c'est quelque chose que j'ai choisi. Mes parents se sont rencontrés en France. C'était un pays qui a toujours existé dans mon éducation. Mes deux parents étaient francophiles et Paris a toujours été une ville qui avait qui était un point de repère pour ma famille et pour moi. Et donc c'est le pays que j'ai choisi. J'ai choisi d'être française, d'avoir ma fille en France et voilà.
Et là, vous avez choisi la langue française. Vous n'aviez pas chanté en français depuis Nolita. Donc là, c'est le choix de la langue française. Ça change quoi de chanter en anglais et en français pour vous ?
Pour moi, c'est pas forcément le choix de la langue, c'est pas une question d'appartenance, c'est une question d'environnement sonore. Pendant des années, j'étais dans un environnement sonore très anglo-saxon, avec une famille anglo-saxonne, un amoureux anglo-saxon. Et c'était important à New York, à Paris, partout, en voyageant. Et c'était important pour moi que ce que je racontais ait une liaison avec ce que je vis, et en tout cas qu'il soit compris par ceux qui m'entourent, c'est les proches qui étaient près de moi. Et depuis 4 ans, je suis de nouveau à Paris, j'élève ma fille ici, elle est scolarisée ici. Mon environnement sonore est très très francophone, même si je parle à la maison, on parle toujours anglais. Et donc, c'est-à-dire que le choix de la langue était vraiment lié à mon vécu de ces moments-là.
Et là, vous avez contraint un grand chanteur américain, David Byrne, fondateur des Talking Heads, à chanter en français dans Le goût d'inachevé. Écoutons.
Si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre verre.
Si vous étiez ma femme, je le boirais. Si vous étiez ma femme, je vous emmènerais près des falaises.
Si j'étais votre femme, je sauterais.
Seuls les amants de romance savent mourir en beauté. D'un amour impossible, au goût d'inachevé.
C'est marrant parce que vous dites il y a comme un feuilleton entre David Byrne et moi. C'est quoi ce feuilleton ?
En fait, je pense qu'on incarne un couple qui n'est pas forcément impossible. C'est-à-dire qu'on a, je pense que ça existe, de se haïr tout en vivant une vie de famille, d'amour et de compréhension. Voilà, vouloir s'entretuer. Mais après, c'est vrai que il prend un air, les fréquences ont un rapport très fort dans la musique, dans les chansons, quand on raconte quelque chose. Et justement, ce côté très très lyrique qu'il apporte fait comprendre beaucoup de choses sur ce couple le temps d'une chanson qu'on incarne.
Alors vous êtes une femme orchestre, hein, on peut dire que vous maîtrisez votre art, vous arrivez à justement avoir une forte personnalité que vous avez imposée, et vous savez qu'il y a aujourd'hui tout un mouvement qui veut changer la place des femmes dans la musique et qui dit que justement les femmes ne maîtrisent pas leur art. Il y a eu une pétition et j'aimerais qu'on écoute à ce propos des propos de Juliette Armanet le 13 mai sur France Inter.
Il y a à mon sens deux piliers qui sont très forts dans ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est évidemment ces histoires de balance ton quoi. Et il y a évidemment aussi un deuxième pilier qui est celui de l'égalité. Combien il y a de directrices de labels? Combien il y a de directrices artistiques? Combien il y a de femmes qui sont programmatrices dans des festivals? Combien de femmes aujourd'hui décident de ce qui se passe dans l'industrie de la musique? Pas assez, pas assez, pas assez. Voilà.
Alors près de 1000 femmes, on avait signé donc au printemps une pétition dans ce sens. Jeanne Chéral, Jeanne Hadette, Clara Luciani, Barbara Carlotti, mais pas Keren Ann. J'ai pas vu votre nom.
J'ai pas du tout été, on m'a même pas envoyé le
nom. On vous a même pas proposé de signer.
J'étais pas au courant. Il y a plein de choses que je signe, bien évidemment, parce que la place de la femme, elle est essentielle pour moi. Et Dieu sait que j'ai connu, moi, des périodes où, et arrivant au studio et me mêlant à des câbles et à des tables de mixage, à des consoles, à des, on appelle ça du hardware, en fait, des compresseurs, des préamplis, des micros. Des machines. J'étais entourée d'hommes et je trouvais qu'il y avait pas assez de femmes qui avaient leur place dans le son, mais c'est un peu comme dans plein de métiers. J'espère que ça change, parce que je pense que justement le son et le monde du son, de la matière, c'est quelque chose qui est très très proche de la femme. Non, je pense que c'est très très bien qu'il y ait une pétition comme ça. Après, est-ce que là, elle parle de l'industrie. Je pense que des femmes qui font, qui écrivent, qui composent, qui arrangent, qui réalisent, il y en a plein. Après, il faut qu'elles arrivent sur les devants et qu'elles aient autant de place et autant de budget, peut-être. Mais c'est vrai que dans l'industrie, dans les labels, dans les festivals, c'est on aimerait qu'il y en ait plus. En tout cas, autant. C'est pas forcément plus que... C'est pas une guerre qu'il y a plus, mais qu'il y ait autant.
Fatou Diom, juste un mot, il y a une forme de sexisme dans le milieu littéraire, selon vous?
Peut-être qu'on me traite comme un garçon, parce que ça dépend comment on le vit aussi. Moi, ma plume, elle n'a pas de genre. Donc, vous savez, les hommes sont obligés de devenir féminins pour se servir de cette plume. Donc, on parle toujours de la plume d'un écrivain, et ça reste au féminin. Qu'on ait la barbe ou qu'on ait, je sais pas, la cambrure de je ne sais pas qui d'autre. Donc, c'est le positionnement. Et moi, j'ai été élevée par un marin qui m'a toujours dit, tu es une personne. Donc, je suis sensible aux causes féministes. Je suis concernée, tout en sachant très, très bien que dans ma vie à moi, c'est pas vraiment une question, mais je dois me battre pour ça, pour mes petites sœurs, pour tous les autres autour qui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir un vieux marin comme mon grand-père pour les élever, pour leur dire que vous n'êtes pas une fille, vous n'êtes pas un garçon, vous êtes une personne.
Alors Fatou Diom et Keren Ann, en attendant, je vous invite au Social Club. Je sais pas si vous connaissez, c'est un morceau d'Oxmo Puccino, Caballero et Jean Jass.
Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Banana, cheese, blueberry. Elle m'embrasse et je loupe mes rimes. Objectif à peine dévoilé, space cookie par chef étoilé. Les ladies nous remercient. Arrivé jeudi, parti mardi. Je rallume le spardi si samedi. Appelle tes amis si c'est samedi. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club.
Dispensaire à LA.
Petit club à Barcelone.
Coffee shop à Dame.
Je suis brisé comme porte.
Un nouveau style de locomotive.
Ah, protège-toi à nos confrères.
Ah, parce qu'il y aura des pogos d'office. Je donnerai aucun de mes bocaux aux flics.
Avant l'égalité, on a légalisé. Garantie, l'amour, la quantité, la qualité.
La tête entre les nuages et les avions. Hey. Ça fait 10 ans que je suis en élévation. Les barreaux qui nous enferment, faudrait que nous les effacions. Avec Marie-Jeanne, j'ai préparé l'évasion.
Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Y'a pas écrit entrée gratuite. Reste comme sur ta tweet. Rien que ça parle et que ça tweet. Billet dans un sac d'or. Concu dans la salle d'or. Je célèbre avec un salto. Désolé si j'ai l'air désagréable. C'est parce que j'suis encore clean. J'suis trop chaud. Allumer la clim. J'suis sapé comme si j'avais un Clio.
J'me sens lourd comme une enclume. J'suis membre du club. Elle colle comme la glu.
Grande bouffée air pur, les clés sont perdues, où est la voiture?
Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club. Toujours en survêt comme Jürgen Klopp. Ça sent bon, c'est pas une clope. Ça pousse de l'autre côté du globe. C'est réservé aux membres du club.
Christophe Bourseiller. Estivalitude sur France Inter.
Mes invités ce matin sont Kerenan et Fatou Diom. Alors je vous ai demandé à toutes les deux, bien sûr, si vous aviez des questions l'une pour l'autre. Alors Fatou Diom, quelle est votre question pour Kerenan?
Alors, Kerenan, donc, être française...
Une question de 30 pages.
Quelque Vas-y. Chose que j'ai choisi. Et alors nous voilà donc jumelles de choix de langue française, n'est-ce pas? Et j'en suis ravie. Alors je voulais maintenant, comme nous sommes aussi des artistes, vous demander qu'est-ce que vous trouvez dans la musique que vous ne trouvez dans aucune autre activité de toute l'existence, hein?
Alors il y a le côté passif de la musique, c'est que ce que la musique peut me procurer. Je pense que d'un point de vue son, certaines fréquences, certains sons, certaines manières de délivrer le son à travers un enregistrement, que ce soit le son d'une voix, d'un instrument, le son d'un ensemble, ça peut totalement rééquilibrer une sensation. C'est-à-dire que je pense que la musique, parfois, elle remplit quelque chose qui manque pour trouver focus, pour trouver centre. En tout cas, dans mon cas, c'est le cas quand j'écoute de la musique et quand je fais de la musique. C'est pour ça que quand j'enregistre un album ou quand je suis en studio, j'ai besoin de faire presque la musique que j'ai envie d'écouter. Celle dont j'ai besoin d'écouter, celle qui, au moment où je la fais, n'existe pas, n'est pas sous ma main pour pouvoir l'écouter, parce que ce sont des fréquences, des ensembles. La gravité du piano mélangée à ces violons-là, avec le son de ces mots-là, avec cette ritournelle-là, c'est un ensemble qui est presque complémentaire à mon état. Et donc pour moi, la musique, c'est vraiment un accompagnement. Je n'aimerais pas connaître un monde sans musique.
On a l'impression que vous composez un album comme on écrit un livre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout une artiste
vous
qui fait des...
Ma question.
Ah pardon, vous vouliez c'est le redire. Ma... Allez-y alors, Fatou.
Je voulais compléter puisque vous êtes aussi parolière.
Oui.
Donc quand
oui.
j'ai dit musique, j'entends aussi le verbe qui va avec cette mélodie-là. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, que vous ne trouverez nulle part ailleurs? Et j'aime déjà votre première partie de réponse. Merci.
Alors, l'écriture des mots, déjà, les mots, ce sont des sonorités. Parfois, le sujet nous emmène des sons, et parfois, c'est des sons qui nous emmènent le sujet. C'est un rapport, ça va dans les deux sens. Ce que je trouve dans les mots, c'est la possibilité de... C'est presque... On peut l'utiliser comme presque une manière de guérir de quelque chose, et parfois de découvrir quelque chose, mais en tout cas... J'aime le mot raconteur, raconteuse, parce que je pense qu'en musique, en chanson, dans le songwriting, on est raconteur. Et pour moi, le fait qu'il y ait deux couplets, un refrain, parfois le refrain est une répétition, il y a d'autres couplets, et on a besoin, en 3 minutes ou en 5 minutes, de faire un début, un milieu, une fin, ça permet de raconter une histoire courte, avec la rime, les rimes, et cette forme-là d'écriture, pour moi, c'est quelque chose de très très complet. Surtout quand il est lié à des notes et à une progression harmonique. Donc, ce que je trouve dans l'écriture de chansons et pas d'autres écritures, c'est une espèce de quelque chose de complet. C'est une rondeur, c'est une satisfaction absolue.
Alors, je vous présente une nièce de Bach et de Yourcenar. Punctus contra punctum.
C'est ça, contrepoint, bien sûr. Kerenan, vous avez, vous aussi, une question pour Fatou Diome.
Oui.
C'est quoi, la question?
Alors, moi, je voulais savoir s'il vous arrive d'écouter un album du début à la fin, juste écouter, sans faire autre chose. C'est-à-dire, comme quand on lit un livre, ou comme quand lorsqu'on regarde un film, est-ce que il vous arrive d'apporter cette attention à un album entièrement?
Kerenan, je vous soupçonne d'avoir eu un espion. Donc, moi, quand j'écris, j'écoute toujours de la musique. Et selon l'ambiance de ce que j'écris, par exemple pour ce livre,
ouais,
j'ai beaucoup écouté Dead Can Dance.
Ah, et Lisa Gérard. Elisabeth Fraser, Lisa Gérard.
Voilà, Lisa Gérard avec, oui, oui. Et surtout un morceau obsessionnel, Rattlesnake. Et
Brendan Perry, bah oui, voilà.
Voilà, et j'étais dans cette ambiance parfois, mais pendant des semaines. Hein. Donc, à un moment donné, même la peau entend cette musique et en frisson. Et le ton du texte aussi pour aller avec ça. Et c'est pour ça, dans Ina Suvinovi, il y avait vraiment la bande sonore du livre sur la première page.
Voilà. Donc, je suis jalouse de votre talent. Votre écriture.
Tout à fait, parce que je voudrais pouvoir chanter. Je n'ai pas la voix, vous l'entendez. Là, je parle comme Rocky. Donc, je ne peux pas chanter, mais ça chante dans ma tête. Donc, j'écoute tout le temps la musique. Et je remercie les musiciens, les chanteurs, parce qu'ils sont toujours dans mes nuits pour m'accompagner dans l'écriture.
Et ça vous arrive d'écouter de la musique sans écrire, sans faire rien d'autre? Juste s'asseoir et l'écouter?
C'est un besoin, même d'accord, avant de dormir, m'isoler. En général, confession, avant de faire mes conférences ou même avant d'aller dans une émission, sauf aujourd'hui où je suis arrivée presque en retard, je m'isole pour m'imbiber de la musique.
Non, non.
Et je récite, voilà.
Alors, je vous ai demandé, on va prolonger votre discussion, parce que je vous ai demandé à l'une et à l'autre le son qui vous résumait. Et c'est intéressant, parce que là, on va parler de musique, on va parler de son, de sonorité. Alors, vous, Fatou Diome, c'est quoi le son qui vous résume?
Il est trop grand pour moi, donc il ne me résume pas, il m'inspire. C'est le discours de Martin Luther King, I have a dream, parce que je pense que notre époque réclame cette voix.
Même si nous faisons face à des difficultés, aujourd'hui et demain, j'ai tout de même un rêve. C'est un rêve profondément enraciné dans le rêve américain. Je rêve qu'un jour, cette nation se lève pour vivre le vrai sens de sa foi. Nous tenons ces vérités comme allant de soi que tous les hommes naissent égaux.
Alors, il y a la beauté de ce que dit Martin Luther King, et puis il y a la beauté de sa voix, Fatou Diome.
Il y a la beauté de sa voix, il y a la beauté poétique aussi du texte, mais il y a la beauté de l'idéal. Et Toni Morrison vient de partir, n'est-ce pas? Et toutes ces belles voix-là, leur beauté doit rester pour toujours éclairer notre époque. Parce que ça, c'est indémodable. J'ai trouvé que mon choix était bateau parce que toute personne à peu près censée peut choisir ce discours, n'est-ce pas?
C'est vrai.
Voilà, pour la fratrie humaine. Et en plus, pour l'Africaine d'origine que je suis, donc ça fait vraiment très simple comme choix. Il n'est pas si simple que ça. Je trouve que notre époque, les populismes d'aujourd'hui réclame une mémoire. Et cette mémoire-là, si nous la résumions dans Martin Luther King, eh ben nous aurions encore un flambeau pour avancer. C'est le rêve. Donc, levez-vous et éclairez l'Europe, éclairez le monde.
Alors, Kerenan, le son qui vous résume, on va l'écouter tout de suite. Je pense que peut-être les auditeurs vont reconnaître ce que c'est.
Well, the highway's alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of Tom Jones.
Là, vous me prenez par les sentiments, hein, Kerenan, parce que c'est un de mes chanteurs fétiches, Bruce Springsteen. C'est donc un extrait de The Ghost of Tom Joad. Pourquoi vous avez voulu entendre ça précisément?
Parce qu'en fait, Springsteen, il a aussi, il a plusieurs vies dans sa musique. Il a toujours les albums qu'il fait avec le E Street Band, mais toutes les quelques années, il sort un album très très intimiste, un album de raconteur justement,
oui, oui,
comme le dernier d'ailleurs, Western Stars et Devils in Dust. Mais The Ghost of Tom Joad, pour moi, c'est une école, cet album. Il fait partie des albums que j'ai tellement été touchée par la manière qu'il a de raconter l'Amérique, de raconter, de rentrer dans la peau des gens, de laisser la peau des gens rentrer en lui, de pouvoir être la voix de plein de choses qu'on a peur de dire, d'être un narrateur sans jugement.
Narrateur sans jugement.
Oui.
C'est ça pour vous, un chanteur? C'est quelqu'un qui décrit des choses?
Pour moi, c'est un songwriter. Oui, d'une certaine manière, c'est un songwriter, c'est quelqu'un qui raconte, et que l'ensemble de tous les éléments, les mots, les notes, la progression harmonique et la manière de délivrer avec la voix, la manière de raconter, tout ça fait c'est complet et ça arrive. Et cet album-là, pour moi, c'est un très grand livre.
Wom babi kolol, babi kos, babi pu wo, babi tem, babi pel, babil. Wom babi holos, babi pan, babi kenge wo, babi tar, babi tem, lingen. Nyukini chelongi porol, nyukini chorol ni yomatai, nyukini sros longi porola, mbai dibi soros, dibi lo, dibi le, ni yo, dibi on, dibi sem, ni yo. Divi poros, divi on, divi quiz, dio. Divi lo, divi soros, dio. Nyukini chelongi porol, nyukini chol, dio matai. Nyukini soros, longi porola, nyukini chelongi porol.
Le chanteur camerounais Blik Bassi, c'était Mdopol, un hommage au militant indépendantiste camerounais Ruben Niobe, assassiné en 1958 et justement surnommé Mdopol. Une programmation panafricaine et romantique de Thierry Dupin sur France Inter.
Vous avez dit,
vous avez dit,
ah non,
mais vous m'avez rien dit.
Ben, c'est vous qui me l'avez dit.
Les gens là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher.
Ça, vous y allez fort, hein, Fatou Diome. C'était en 2015, dans Ce soir ou jamais, l'émission de Frédéric Taddeï. Qu'est-ce que c'était sur les migrants, ce que vous avez dit, hein. Vous avez dit également, si on voulait sauver des gens, on le ferait, mais là, on attend qu'ils meurent d'abord.
C'était parce qu'on aurait pu utiliser les moyens de Frontex pour les ouais. sauver. Ce n'est pas du tout moi qui y vais fort. C'était les événements qui étaient tragiques. Il y avait quand
même. Il continue à être tragique.
Voilà, 1700 morts ce jour-là. Et donc, c'est bien facile de faire une minute de silence, mais une minute de silence, ça ne ramène pas un fils à sa mère, ça ne ramène pas un mari à sa femme. Donc, et encore une fois, eh bien, je souligne encore ce silence de l'Union africaine. Je ne comprends pas parce que eh bien, si vous perdez vos enfants et vous ne réagissez pas, vous ne méritez pas de condoléances. Et c'est ce que l'Union africaine fait.
Et vous vous adressez aussi aux Européens en disant « Vous ne resterez pas comme des poissons rouges dans la forteresse européenne. Il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble ou on se noiera ensemble. »
Oui, parce que nos destins sont liés. Je sais que ça fait bisounours ces choses-là aujourd'hui. Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut proposer à l'humanité.
Kerenan, ça fait bisounours?
Je ne sais pas si ça fait bisounours, mais en fait, après, c'est difficile de ne pas vouloir être bisounours. Parce qu'on n'a pas vraiment à quoi s'accrocher. Parce que quand on regarde l'histoire, il y avait des bateaux qui ont été contournés à New York, qui arrivaient d'Europe. Il y a 70 ans.
C'était des migrants qui allaient aux États-Unis.
Qui
étaient des Européens qui allaient aux États-Unis.
Exactement. Donc, ça existe dans l'histoire. Donc, je pense que la seule manière, parfois, d'avoir espoir, c'est d'être bisounours, parce que quand on regarde l'histoire, dans l'humanité, ces choses-là ont toujours existé, malheureusement. L'homme est bon et l'homme est mauvais.
Alors Kerenan, dans Bleu, il y a une chanson, je trouve, qui m'a donné à réfléchir. C'est celle qui s'appelle « Ton île prison ». On en écoute un petit extrait.
Peut-être que cette terre dont tu te sens propriétaire est vraiment extraordinaire, car elle est tellement populaire. Peut-être que j'y suis, car autrefois on m'a tout pris, et que c'est ici qu'on m'a promis que je serai toujours à l'abri. Mais toi, tu veux ma peau, tu veux troubler mes idéaux, tu veux ton paradis là-haut, lorsque tu brûles mon drapeau. Peut-être que je t'entends, que je suis là, que je comprends, que je n'en peux plus d'y voir du sang, que je suis surpassé et impuissant. Vu de l'extérieur.
C'est une très belle chanson. Alors évidemment, en l'écoutant, je me suis dit, est-ce qu'elle parle d'Israël?
Alors en fait, la chanson, elle est en deux parties. Au début, je parle d'une rupture. Et après, je parle forcément d'un conflit entre deux territoires. Malheureusement, aujourd'hui, ça peut être vrai pour plein d'endroits dans le monde. C'est pas forcément que Israël et la Palestine, il y a plein d'endroits. C'est vrai que je ramène beaucoup des choses entre quatre murs, parce que je pense que tous les grands problèmes qu'on a dans le monde, ça commence entre quatre murs. C'est-à-dire que si on ne sait pas gérer les conflits avec notre partenaire ou dans notre famille, comment gérer les problèmes?
On ne saura pas gérer les conflits géopolitiques.
Absolument. C'est pour ça que cette chanson, en fait, le premier couplet commence par une rupture entre un homme et une femme, et finalement, ça devient de plus en plus gros la chanson.
Vous vous êtes élevé contre le boycott culturel contre Israël?
Oui, parce que je trouve que c'est totalement hypocrite de faire un boycott culturel, puisque justement quand on est artiste, on a une voix, on a la possibilité d'aller dans des endroits, de voir, de parler, d'échanger avec des gens. Les gens qui faisaient le boycott, c'est des gens qui vont en Chine, qui vont aux États-Unis.
C'est ça, pourquoi on boycotte pas la Chine, la Turquie?
Moi, je vais aux États-Unis, ça ne veut pas dire que je suis une adepte de Trump. Donc, si vous n'êtes pas une adepte de Netanyahou et ne pas aller en Israël, je trouve ça hypocrite. Voilà, moi, au contraire, je pense qu'un artiste, il faut aller, il faut voir, il faut échanger, il faut parler. Je trouve que le boycott culturel, c'est beaucoup, beaucoup d'hypocrisie, parce qu'il est ciblé dans ces cas-là, surtout... à l'époque où on en parlait de ce boycott-là, c'était les boycotts de BDS.
Oui, surtout les produits israéliens. Vous avez dit, je suis né en Israël, mais je suis athée.
Je suis laïque.
Vous êtes laïque?
Oui.
Vous aussi, vous êtes laïque, Fatou?
Ah, mais à fond.
À fond.
Oui, je suis, c'est pour ça les valeurs j'aime les traditions, attention, j'adore, je trouve que c'est important de les échanger, de les apporter avec soi, les saveurs, tout ce qu'on a, tout ce qui rend heureux, tout ce qui permet de célébrer, tout ce qui permet d'être avec des gens qu'on aime. Par contre, la religion, j'ai pas été élevée dedans, et c'est quelque chose qui à mon goût, à mon sens, et surtout quand c'est lié à l'endoctrinage, ça peut me faire froid dans le dos.
Ça peut faire froid dans le dos. Et vous avez aussi un autre point commun, toutes les deux, c'est que vous vous engagez, vous dites, Karen Anne, vous avez dit, je descends régulièrement dans la rue pour manifester. Et Fatou Diome, vous aussi, vous descendez dans la rue, vous avez dit, je revendique la liberté de gâcher le sommeil des puissants.
Oui, mais c'est parce que je parle aux sorcières quand ils dorment. Donc, c'est quand j'écris la nuit, c'est ma tribune. Donc, parler, prendre la parole comme ça pour dire les choses, c'est finalement la force du désespoir, vous savez, c'est une manière de clamer juste mon impuissance. Et je reviens sur la parole de Karen Anne avec Lille. Eh bien, je vole votre titre là pour dire, Lille prison, c'est aussi notre monde, voilà, où nous sommes ensemble.
Et en fait, juste pour revenir, je suis d'accord avec vous, pour revenir au fait que toutes les deux, on est là, on est françaises par choix. Et on est dans un pays où on prend la parole. Il faut pas oublier que c'est justement, on vit dans un pays où on a cette possibilité d'avoir un choix, d'avoir un avis. Et aujourd'hui, être laïque, c'est préserver et défendre une idée dans un pays, je pense, où on peut avoir un avis. Et pour moi, le plus grande chose, enfin, les choses que je descends manifester aujourd'hui pour préserver justement ça, la laïcité. Je trouve que ça serait la plus grande perte si on la laisse partir.
Tu veux que je te raconte un souvenir ?
Un souvenir, oh oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Vous êtes passionnantes toutes les deux, mais l'émission, il est déjà 9h55 sur France Inter, l'émission touche à sa fin, et la question importante que je veux absolument vous poser avant qu'on se quitte, c'est quel est votre plus incroyable souvenir de vacances? Alors il faudra me le dire assez brièvement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Fatou Diome, pour vous, c'était l'été 1993, vous êtes précise.
Mais oui, dans ce monde parfois si dur, j'aime donc vous parler ici de mon souvenir à la fois, c'était touristique parce que je découvrais la France, mais j'étais aussi avec mon fiancé, toute jeune, remplie d'illusions, émerveillée partout. Donc c'était un été avec une note bleue, n'est-ce pas, Karen Anne?
Un été avec une note bleue. Alors vous, Karen Anne, à cette question, vous m'avez répondu par un texte de 2 pages et demie, dans lequel vous parlez de nombreux lieux. Alors quel est le lieu qui vous a le plus touché?
Mais je l'ai là. Donc en fait, c'était juste une question par mail. J'étais dans le taxi, donc j'ai dit j'ai beaucoup d'été incroyable. Il y en avait d'incroyables parce que j'étais enfermée en studio, comme une hibernation. D'autres à voyager sans cesse d'un pays à l'autre.
C'est ça.
Certains étaient à se reposer sur une île grecque ou une île italienne. Et de temps à autre, contourner l'île en bateau. Il y avait un été où je suis partie avec ma fille traverser l'Islande, que je connaissais déjà, mais pas à travers ses yeux. Donc je redécouvre les destinations quand je voyage avec elle. J'aime autant les plages désertes que les poussières et la terre dans les villages, oui, en regardant partir les taureaux.
Voilà.
C'est vrai.
Oui.
Non, mais en fait,
il y a aussi la randonnée à Josuatri dans le désert californien.
Oui, randonnée, désert californien, les criques, les volcans, l'eau turquoise, les villes dénudées de leurs habitants remplies de visiteurs, j'aime bien aussi.
Oui.
Paris, à la mi-août.
Oui. L'été normand, breton, camarguais, alpin.
Oui.
Nord des Pays-Bas, Amsterdam à vélo, Malmö à pied, la route 66 en voiture.
Avec plein d'arrêts dans des motels.
Tout à fait.
Brooklyn, l'été, comme l'hiver, ouais. Portland, Vancouver, Toronto, voilà. En tournée, même quand il y a les festivaliers énervants en short et en Birkenstock.
Halifax, alors là, je sais où Halifax, exactement.
Nova Scotia.
Ah ouais.
Au Canada. J'adore aller jouer.
Et puis finalement, vous aimez votre chambre à Paris, dans les bras de l'homme qui rend l'été serein. C'est très joli comme formule.
C'est vrai que ça peut faire un très bel été.
C'est un peu ce qu'on a vécu, nous, l'été à Paris, avec Estivalitude. Merci infiniment, Karen Anne et Fatou Diome. Vous avez toutes deux fait preuve d'une extraordinaire estivalitude. Karen Anne, votre album Bleu est sorti au printemps et votre tournée cet automne vous conduira en Pologne, en Belgique et en France. Et vous serez notamment à l'Olympia à Paris le 24 octobre. Fatou Diome, votre livre Les Veilleurs de Sangomar est paru hier. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. C'est Juliette Médevielle qui réalise Estivalitude. L'émission a été préparée par Saad Merzak et Pierre Goulencourt, avec à la technique aujourd'hui Serge Viguier. Notre boutique éphémère réouvre dès demain 9h sur France Inter. Je recevrai un chef de cuisine, Thierry Marx, et un rappeur qui est aussi un homme de lettres, Abdelmalik.